Choc 88.7. Hein?
On fait ça un petit peu différemment aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué. On a Eric Flynn en studio. Salut Eric.
Allô Raph.
Écoute, d'habitude tu viens dans le coin de 17h, mais bon, la conférence de presse d'aujourd'hui est importante. On va en savoir peut-être plus concernant les écoles, les élèves, nos jeunes. La conférence du gouvernement Legault, bien évidemment. Donc c'est à 17h, on va la publier sur nos ondes, sur les ondes de Choc 88.7. Et la chronique microbrassicole, mais c'est remis à demain, parce qu'on voulait faire un petit peu de place. Et bon, Eric, on va faire ça en deux segments aujourd'hui parce qu'on va avoir le temps de tout passer. Puis en même temps, on essaie entre des choses plus sérieuses puis des choses un peu plus légères. Puis on essaie de faire un beau melting pot, un beau mélange de tout ça. Donc, on va commencer avec des petites nouvelles musicales. Ouais. Et tout à l'heure, comme promis, on va parler de l'histoire de Pat Benatar. On va se rappeler de bons souvenirs. On va se rendre nostalgiques tous ensemble. Donc, voilà. Et côté nouvelles, de musique, il y a pas mal de choses à dire ces temps-ci.
Oui, effectivement, il y en a quelques-unes. On va commencer par un groupe de Saint-Bruno dans le coin de Montréal. C'est le groupe Sword. Souvent, t'as peut-être pas connu ce groupe-là. C'est qu'ils ont annoncé un premier single prochainement. Même, ils ont commencé à virer tout ça, mais c'est pas encore sorti dans le fond, là. Okay. Alors, le groupe Sword, ça fait à peu près 30 ans exactement qu'ils ont rien fait du tout. Les gars ont comme pris leur retraite. Et là, ils font un grand retour. On les a connus dans les années 80 avec FTW, Follow the Wheel. Ça a été leur gros succès. S'il y en a qui ne se situent pas encore, je vais vous dire de quoi, puis vous allez tout de suite allumer. La fameuse fois au gala de la disque, quand Claudette Dion, elle a mentionné un prix pour Céline, puis elle a dit « C'est Céline !» Tu sais, le fameux classique. Oui. Ben, le gars qui est à côté d'elle, qui était son copain de l'époque, ben, c'est le chanteur de Sword.
C'est Sword ou de Sword?
Sword.
Sword,
moi, ça a toujours été Sword, là.
Je cherche justement de leur chanson, puis j'ai deux bands qui me sortent.
OK, Follow the Wheel.
Follow the Wheel. OK,
ouais,
ben, je vais essayer de trouver ça dans
les prochains instants. Ouais, puis ça a été un gros succès. Un excellent groupe québécois. Alors, un grand retour après 30 ans d'absence.
Ah, voilà, l'ai ici.
Oh! Oh. Ah, ouais. Là, les vieux de la vieille qui sont à l'écoute, là. On vient des fois triper, là.
Oh, oui.
Ah, ouais, avec ça, là.
Donc, ils reviennent. Oui, le bug de Musique Plus. Ils reviennent avec un EP, c'est ça que tu dis?
Ouais, avec un single, tout simplement.
Un single, tout simplement. Ça l'annonce peut-être prochainement un album?
Ça va sûrement suivre avec un album, mais ils n'en ont pas parlé encore. Donc,
On se croise les doigts.
Un petit peu, là. Ouais. Ce serait cool.
Ouais. C'est excellent.
Yes.
Tu as des nouvelles sur les Smashing Pumpkins?
Oui, les Smashing Pumpkins, eux autres, ils vont sortir un album le 27 novembre prochain.
Mm-hmm.
Ça s'en vient. Alors, c'est un double album qui va regrouper des membres fondateurs du groupe. Bien entendu, il y a Billy Corgan, James Iha, puis il y a aussi Jimmy Chamberlain, qui seront accompagnés du guitariste Jeff Scudder. Et ils ont sorti la pièce Witch. Alors, ça, c'est le deuxième single qu'ils ont sorti. Ils ont sorti un single dernièrement. Et c'est ça, j'ai pas encore entendu le nouveau single. Ben le premier qu'ils ont sorti, j'ai trouvé ça coup-ci-coup-ça, mais j'ai bien hâte de voir et surtout d'entendre à quoi va ressembler la pièce Witch du côté des Smashing Pumpkins. Bien entendu, rock du rock alternatif des années 90. Ça, c'était les années de gloire dans le cœur des années 90, ou dans la période grunge, rock alternative. Et c'est ça. Donc, c'est un groupe aussi qui était quand même expérimental dans les années 90.
Oui.
Et c'est ça qui était vraiment agréable du côté de Smashing Pumpkins. Et ça suffit de penser à la pièce 1979 et plusieurs autres aussi. Mais c'est ça. Donc, oui, le groupe est toujours vivant. Puis même si Billy Corgan, je sais que dernièrement, il était avec une fédération de lutte. Je pense même qu'il était celui qui faisait les combats, autrement dit, qui organisait tout ça au niveau du script, je crois. Puis dernière nouvelle, c'est ça qu'il faisait. Mais là, bon, c'est sûr que au niveau musical, c'est plus un peu son dada. autrement dit. Ah ben ouais.
Le 27 novembre.
En plein ça. De la semaine prochaine. Vendredi prochain.
Ben, vendredi prochain, ouais, c'est bientôt.
Dans 8 jours.
Un cadeau de Noël avant, un mois avant.
Exactement.
Elle était dans le bon stock, là. Evanescence.
Ouais, Evanescence également, c'est un petit peu la même époque. Eux autres, de leur côté, ils vont présenter un concert en streaming.
Oh, c'est intéressant.
Alors, ouais. Et c'est ça, donc, ça sera dans leur studio directement. Et ça va se passer à 22h, heure de l'Est, avancée, le 5 décembre prochain. Et c'est ça, donc, ça se passe à Nashville, dans leur studio, à Nashville, dans le Tennessee. Et on va présenter aussi des chansons du prochain album de Bitter Truth, qui sera disponible le 8 décembre prochain. Donc, si vous voulez acheter vos billets directement, là, c'est sur evanescencelive.com.
Ça fait longtemps que j'ai entendu dire Evanescence.
Avec Emily.
Je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'entendais ou que je me faisais jouer une chanson d'Evanescence, après j'avais du Linkin Park tout le temps.
Ah ouais?
Tout le temps. Je sais pas, je trouve que ça faisait un beau mélange.
Ouais.
Nous ramène des nouvelles de Jimmy Page. Il sort de sa retraite.
Ben oui, effectivement. Parce que là, il a mentionné au magazine britannique GQ. C'est que, bon, ce qu'il mentionne, c'est que lorsqu'on est confiné pour la première fois, bon, lui, bien entendu, un peu comme tout le monde, trouve ça un petit peu tough. Il s'est dit, c'est le moment de penser à revenir sur scène à un moment donné et à être capable de jouer. Alors, c'est ça. Et puis là, ben, il a commencé justement à songer sérieusement à revenir sur scène pour quelque temps. On ne sait pas pour combien de temps, mais c'est de ce côté-là là que ça serait vraiment intéressant de le voir avec qui. Est-ce que les gars de Led Zeppelin, les ex vont venir, je croirais pas. Avec la voix de Robert Plant aujourd'hui, elle est trop maganée pour aller faire de la scène, malheureusement. Est-ce que John Paul Jones va vouloir revenir? Ou peut-être tout simplement avec les musiciens à l'époque de Coverdale Page aussi. Donc, ça pourrait être intéressant. Surtout que David Coverdale, de son côté, il est toujours actif. Même que Whitesnake va sortir prochainement un album compilation. Alors, est-ce qu'il y aura une petite réunion ou sortira tout simplement des musiciens qu'on connaît beaucoup moins, mais que Jimmy Page va s'amuser, un peu comme plusieurs le font aussi. Gene Simmons, quelque part avec Kiss, il fait sa petite tournée avec ses musiciens connus, puis il s'amuse. Puis, tu sais, il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de pétard.
C'est de la musique. Les gens qui vont les voir ou qui les écoutent, c'est pour la musique.
Exactement. Ben c'est ça, tu sais. Dans le fond, tu sais, c'est surtout là ça sera à voir, ça va être intéressant, surtout lorsque le tout sera terminé, l'histoire de la COVID.
Tout à l'heure, tu vas nous parler de Pat Benatar sur nos ondes.
Ouais.
Pat Benatar qui a une histoire bien à elle, une rockeuse hors pair qui joue sur nos ondes d'ailleurs. Et ça va être dans le coin, je vous dirais, de 17h25, 17h30 après la conférence de presse que tu vas nous en parler.
Oui, bien sûr. La belle histoire de Pat Benatar, la reine du rock.
That's chanson, ma région. C'est Choc 88.7. Présentement en onde, Raphaël Beaupré.
Hello. Hello, je vais essayer de ne pas m'étouffer. Bonjour. Hey, je suis en train de m'en remettre. Tu m'as vu, hein?
Ben ouais.
Là, j'avais plus d'eau quand je me suis étouffée. Hey, en 6 ans de radio, c'est la première fois que je m'étouffe en onde.
Ah ouais?
J'ai déjà eu le hockey. Mm-hmm. Pendant que je faisais des nouvelles, quand j'ai commencé à Rivière-du-Loup.
Okay. Puis
au lieu de faire des nouvelles rapides puis passer à autre chose, j'avais deux collègues que j'apprécie énormément. Je salue d'ailleurs mon ancien animateur qui est un bon ami à moi, Sylvain Bureau, qui travaille toujours à Rivière-du-Loup. Mais au lieu de dire, hey, ben écoute, elle s'étouffe. Fait qu'on va, ben peut-être pas qu'elle s'étouffe, mais elle a l'hockey, puis à chaque 5 secondes, elle... Mais au lieu de terminer ses souffrances puis d'aller à la pause ou à la prochaine musique, hey non, oublie ça. Ils ont ri de moi pendant je sais pas combien de minutes puis ils m'ont laissé continuer à faire mes nouvelles en onde. Fait que bref, c'est des bons souvenirs. Puis il y a plein de personnes qui m'écrivent, là, t'es correct, là? Est-ce que tu vas t'étouffer encore? Hey, je suis désolée. C'est des choses qui arrivent. Ça fait non professionnel, mais écoutez, ça nous arrive tous.
C'est complètement humain. Moi, là, j'étais là, je me suis dit, au pire, gars, je vais boire, puis je vais aller prendre la relève pendant une dizaine de secondes au pire.
Tu voulais remettre tes écouteurs, puis me sauver, mais non, écoute, j'ai pas ma main d'orgueil, là, puis ça arrive à tout le monde. Là, fait que, en passant, Eric Flynn, qui est toujours en studio,
ben
merci,
oui,
Eric,
ben oui,
d'être resté, puis d'avoir, ben c'est ça, en fait, c'est un peu le karma qui m'est retombé dessus tout à l'heure quand je me suis étouffée, parce que en micro, ben c'est ça, je disais des commentaires, des choses qui m'appartiennent, puis qui est mieux d'être dit en dehors des ondes, donc voilà. On voulait parler de Pat Benatar.
Ouais.
Comme à tous les jeudis, tu viens en studio, tu nous parles d'un rockeur, d'une rockeuse, puis tu nous rends nostalgique. Donc, Pat Benatar, qui a une vie, en fait, quand même assez particulière puis intéressante.
Oui, effectivement. Ben elle, de son vrai nom, c'est Patricia Andretti. Alors ça, c'est une fille de Brooklyn, dans le coin de New York. Et elle... Ben avec son filet de voix, ses parents voulaient en faire une chanteuse d'opéra, ce qui a été le cas dans le début de sa carrière. Alors c'est ça. Et à 18 ans, elle tombe en amour avec Denis Benatar. De là vient le nom Benatar. Lui, c'est un militaire et ils s'en vont vivre à Richmond en Virginie. Sauf que au bout de 3 ans, son mariage l'ennuie, puis là elle était banquière. Et son emploi de banquière l'ennuie et elle décide de retourner à Brooklyn et refaire sa vie, une nouvelle vie. Et là, elle s'en va justement comme serveuse, chanteuse. Et c'est là que elle a été vue par Mac Chapman, un producteur. Et lui, de son côté, justement, on entend Heartbreaker. Et ça, c'est vraiment un de ses premiers gros succès, qui est un son qui est hard, qui est un beau petit bijou, qui est arrogant. Mais bien peaufiné à l'extrême, là, vraiment, là. Alors, ça, c'est un cover de Jenny Darren qu'elle a fait en 1978, une année avant.
Oh, okay.
Ouais, c'est un cover, c'est pas directement une chanson d'elle. Alors, sauf que dans la version de Darren, il y a un petit côté rock, mais en même temps gospel.
You're a heartbreaker.
Elle avait tout pour provoquer, hein, pour plaire aux hommes,
ouais.
Un petit côté caractère. Puis tu sais, les chanteurs, je suis désolée là, mais tu sais, vous avez toute une manière de vous différencier tout ça. Mais au niveau des chanteuses, souvent quand elles sont sur scène, puis on voit que c'est des passionnés, puis qui mettent corps et âme dans leur voix. Ça n'est une Pat Benatar. On
une
le sent.
Une lionne qui sort d'une cage,
voilà.
Puis qui est en train d'avaler, de digérer
son
repas.
Ouais, c'est ça.
Exact. Love taker, don't you mess around with me. You're a heartbreaker, dream maker. Love taker, don't you mess around with me. You're a heartbreaker, dream maker. Love taker, don't you mess around with me. You're
quelques mots auparavant de la sortie de Heartbreaker, en 1979, il y avait la sortie de Barracuda du groupe Heart. Bien souvent, il y a des gens qui vont confondre entre les deux.
Ah oui.
On entend des fois Barracuda, puis là, ah, ça c'est Pat Benatar. Des fois, on entend Heartbreaker, puis là, ah, ben ça c'est Heart. Mais souvent, il y a une petite...
C'est vrai qu'il y a une différence, mais dans les voix, puis dans le style, c'est vrai qu'il y a une ressemblance.
Il y a une certaine ressemblance, oui. Mais moi, j'étais sûr que Le début de Heartbreaker, ça ressemble vraiment à l'entrée sur le ring de Ultimate Warrior. Et quand j'étais jeune, j'étais sûr que c'était ça
la chanson. Pu,
ça y ressemble un petit peu. Donc, son mariage finit par l'ennuyer, sa job de banquière finit par l'ennuyer. Et comme je vous disais, elle retourne à New York et puis elle se fait remarquer par Mike Chapman. Mike Chapman, il a produit beaucoup d'artistes. On en a parlé, voilà, quelques semaines des Blondies. C'est lui le producteur de Blondies en studio. Et lui, il y avait deux chanteuses qui, leur carrière piétinait un petit peu, là, au milieu des années 70. Dont Suzy Quatro, qui est une des premières rockers là, vraiment là, après Janis Joplin bien entendu. Et là, sa carrière commençait un petit peu à piétiner là. Et justement, il avait besoin d'une nouvelle chanteuse là, parce que Chapman, c'est un gars qui était attiré par des chanteuses, coudonc. Et c'est ça. Donc, c'est en 1979, un premier album, In the Heat of the Night. Et c'est ça. Puis là, le premier succès en réalité, ça a été In Need of Love, une pièce écrite par John Cougar Mellencamp. On l'a connu beaucoup plus tard dans les années 70. Mais son premier grand classique, c'est We Live for Love. Et ça, là-dessus, c'est là qu'on a commencé à la surnommer la Bruce Springsteen. Bruce Springsteen la chanteuse dans le fond, tu sais, des femmes femelles. Et c'est ça, donc elle obtient un succès là, phénoménal du côté du Canada et aux États-Unis, mais pas du tout en Angleterre. Elle passe complètement inaperçue et justement dans quelques instants on va te dire pourquoi. We Live for Love.
We Live for Love.
Ouais, un de ses premiers grands classiques en carrière. Alors, elle passe complètement inaperçue du côté de la Grande-Bretagne. Et pour Cream of Fashion, son deuxième album sorti en 1980, elle va justement faire le lancement officiel du côté de Londres pour se montrer un petit peu aux Anglais et aller chercher le marché anglais, autrement dit européen. Et eux, les Anglais, ont de la misère encore avec elle. Ils disent que c'est une bombe sexuelle que... Et lorsque il y a eu la pièce Hell is for Children, on a dit que c'était une ancienne actrice porno et une danseuse nue qui est devenue rockeuse, donc c'est pas une vraie de vraie. Puis on a eu vraiment des préjugés du côté européen envers Pat Benatar.
Ce qui est le pire, c'est que même si ça avait été vrai, là,
ouais,
on s'entend que les mœurs de l'époque, c'est une autre chose, là, mais je vais dire en anglais, who cares?
Ça
change quoi?
C'est ça. Et c'est justement, c'est avec cette pièce-là, Hell's is for Children. C'est vrai que ça fait chanson de danseuse, par exemple. C'est vrai?
Oui. Malgré que j'ai pas vu ben danseuse dans ma vie.
C'est ça, mais je pars par expérience.
Ah oui, c'est ça, merci Eric. C'est ton côté recherchiste.
DJ.
So you can't see the tears. They hide in the light, so you can't see their fears. Forgive and forget all the while. Love and pain become one in the same in the eyes of a wounded child. Because hell is for children.
Depuis que tu me l'as dit, je vois juste des danseuses.
Ah, je savais. Également aussi, une chanson qui est quand même devenue payante avec le temps, c'est Treat Me Right, ses premiers succès aussi dans le même album, Cream of Passion. Pourquoi? Parce que on a pris cette pièce-là dans le film Officer and Gentleman avec... Ah, merde, là, que je tombe dans le cinéma, là. Là, j'ai de la misère.
Moi, avec les noms, je peux pas t'aider, bébé.
Non, c'est ça. Officier and Gentleman avec Richard Gere, c'est ça. Okay. Oui, effectivement. Alors, qui est un grand classique. Puis même le noir qui joue là-dedans, il est très connu aussi. Liv Morgan, je crois. Alors, tout ça pour dire que c'est dans la scène où les deux filles se préparent pour aller veiller, puis bon, sont dans l'auto en train de fumer une cigarette. Elles se changent en même temps tout en conduisant, puis elles écoutent Trick Me Right de Pat Benatar. Également aussi un autre classique, c'est You Better Run, qui est un cover aussi des Young Rascals en 1966. Et la pièce You Better Run de Pat Benatar est la deuxième chanson à jouer dans l'histoire de MTV. Bien entendu, MTV, lorsque ça a été lancé en août 1980, ben ça a été Videokill de Radio Stars avec les Buggles, le premier vidéoclip de l'histoire. Ben le deuxième, c'est celle-ci, You Better Run. Donc, effectivement, ça fait partie du deuxième album. Et il restait un autre classique dans cet album-là, justement, Raphaël. T'as fait jouer tantôt Hit Me With Your Best Shot, qui a été vraiment... Et c'est à partir de là que on l'a proclamé reine du rock. Et en même temps, Joan Jett est arrivée avec son I Love Rock and Roll, qui est devenu un grand classique. Mais la reine du rock, c'est là qu'on a décidé de la proclamer avec Hit Me With Your Best Shot. Et qui devient aussi... sa chanson la plus vendue dans tout son répertoire. Bien sûr, lorsqu'elle est arrivée puis elle a fondé son groupe, elle avait son guitariste Neil Gilgardo et ils ont décidé de se marier eux autres de ce côté-là. Ben oui, elle a marié son guitariste et elle est toujours avec. Ils ont deux filles aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Alors, c'est ça. Et ça, c'est en 1981 qu'elle a sorti la pièce, l'album A Push of Time. Là-dessus, on retrouve deux classiques, Promise in the Dark et aussi Fire and Ice. Mais aussi, en 1982, elle revient avec l'album Nervous. Et là-dessus, on a la pièce Shadows in the Night, qui a été le seul hit vraiment de l'album. Mais là-dessus, c'est quand même assez intéressant. C'est que c'est le vidéoclip, elle travaille dans une usine. Et là, ben, elle voit une affiche d'avion chasseur de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, ben, là-dessus, justement, elle se met à rêver qu'elle est avec, en avion, avec des chasseurs, avec d'autres avions de chasse qui s'en vont en mission secrète contre les nazis. Puis on voit tout ça, là, dans son rêve, dans le vidéoclip. Très bon vidéoclip, soit dit en passant. Alors, c'est ça, c'est dans Shadows in the Night.
Shadows of the Night.
Oui, effectivement, Shadows in the Night. Oui, effectivement. Et puis, c'est ça a été vraiment un de ces grands classiques. Et 1983, c'est premier album live qu'elle sort, Live from Hurt. Sauf que dans le côté B, ben, la face A du vinyle, c'est qu'on retrouve un album live. Mais du côté B, c'est plus des pièces studio. Il y en a plusieurs qui ont fait ça au fil du temps. Alors, des pièces inédites. Et là-dessus, on retrouve la pièce Love is a Battlefield. Et justement, là, son histoire avec son ex-mari, oui. Denise Banatar. Dans le vidéoclip, elle raconte un peu cette histoire-là qu'elle décide de quitter. Mais sauf que là, c'est pas avec son mari, c'est plus une chicane familiale avec son père qu'elle décide de quitter. Alors, on a un petit peu modifié ça, mais on voit aussi lorsqu'elle arrive à Brooklyn, tu sais, avec presque rien, puis elle travaille dans un bar comme serveuse danseuse. On voit ça un petit peu, puis là, ça crée une grosse controverse, cette vidéoclip-là, parce que là-dessus, bon, OK, on tolérait que Pat Benatar danse pendant les concerts, mais sauf que là-dessus, dans Love is a Battlefield, on la voit à un moment donné avec d'autres danseuses, et là, elles font une chorégraphie toute là, parfaite, et avec cette chorégraphie-là, ben, les purs rockers, ils ont comme pas aimé ça, parce qu'ils ont dit, ça appartient au pop. Ça appartient pas
les
au
rockeuses
rock.
ne dansent pas.
Exactement.
C'est ça.
Ne font pas des chorégraphies, à la Madonna, à la Janet Jackson. Et ça, là-dessus, les pure rockers ont vraiment, là, comme un peu
accroché là-dessus.
Ouais. Et ils ont comme un peu rogné Pat Benatar là-dessus. Mais c'est que la fille a toujours dansé, puis ça a toujours été son petit monde à elle. Un petit peu plus tard, il y a eu Tropico qu'elle a sorti avec un autre hit, We Belong. Et c'est ça. Et aussi, bien entendu, Invisible, qui a été son dernier gros succès en carrière, qui est vraiment qui a fait partie du top 40, parce que, et ça, c'est à la fin des années 80, dans 1988 environ. Et ce qui est arrivé, c'est que là, Pat Benatar a décidé de s'en aller dans le jazz. Et depuis ce temps-là, elle a fait du jazz, mais un peu de rock, mais la vague Pat Benatar, elle est vraiment terminée là, à la fin des
avec
années
Invisible.
80. Oui, effectivement, ça, c'est son vrai dernier succès, Invisible.
Invincible de Pat Benatar. Merci beaucoup d'avoir fait le tour.
Ouais, ben je voulais un petit peu ménager ta voix en même temps.
Ah oui, mais merci. Ouais, t'as vu, j'ai parlé un peu moins. Ben c'est ça, je pense que je vais aller me reposer, me caler un litre d'eau. Puis... Bref, c'est des choses qui arrivent. Hein?
Ben, ouais.
Pour tous ceux et celles qui étaient à l'écoute tout à l'heure de la conférence de presse ou qui ont manqué un bout, qui va avoir les informations, comment ça se passe dans le temps des fêtes, pour ce qui est de ce qui rouvre ou pas, j'ai publié plusieurs articles et images sur la page Facebook de Choc 88.7. Donc, vous avez les détails et bien évidemment, demain, on va revenir sur tout ça. Donc, on va pouvoir vous informer comme il se doit. Eric Flynn, merci beaucoup, comme
merci
à tous les
à
jeudis.
Toi.
C'est très gentil d'avoir pris le temps. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine.
Yes.
Je vais essayer de ne pas m'étouffer cette fois-là.
Pas de problème. Ça va être mon tour.
Oui, c'est ça. Richard Hamel s'en vient dans les prochains instants pour rocker.